Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne, en plus d'être enseignante à l'école d'optométrie, vous êtes aussi malvoyante depuis 27 ans. Vous avez commencé à perdre la vue à la mi-vingtaine. Donc, je me disais que vous auriez un point de vue plutôt global, assez complet sur la question. Est-ce que vous avez été témoin au cours de votre parcours de cette stigmatisation-là, de ces préjugés ou de cette perception qui est fausse envers les personnes qui ont un handicap visuel?
La société a tendance à vouloir regrouper des connaissances face à des grandes catégories de personnes. On peut penser que les gens vont faire une grande généralité sur les femmes ou sur les hommes ou sur les personnes immigrantes. Alors oui, du côté de la déficience visuelle, on a tendance aussi à regrouper notre façon de percevoir les gens qui ont une déficience visuelle. Et donc, je rencontre et je côtoie des gens qui ont toutes sortes d'impressions différentes concernant la déficience visuelle. Mais je vous dirais que ce qu'on voit souvent, c'est deux grandes extrêmes. Ou bien on les trouve extraordinaires, ou bien on trouve qu'ils font pitié. Et je vous dirais qu'il y en a qui font pitié, comme il y a des femmes et des hommes qui font pitié en général, et il y en a qui sont extraordinaires. Et dans la clientèle qui ont une déficience visuelle, eh bien, il y en a qui font pitié, il y en a qui sont extraordinaires, mais la grande majorité sont entre les deux.
J'ai envie de vous citer là-dessus. Vous avez déjà dit, et autant, moi, je vous l'ai entendu dire, mais je l'ai lu également, certains réalisent à quel point être aveugle, c'est le malheur, mais le malheur, au fond, c'est de ne pas être bien avec soi.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que avant de perdre la vue, j'avais une période dans ma vie où j'étais pas très bien dans ma peau, très jeune, comme bien des adolescentes, j'étais en crise d'identité et j'étais très malheureuse. Alors que aujourd'hui, on pense que je dois donc être malheureuse de ne pas voir et c'est faux. Je suis très heureuse malgré certaines difficultés et embûches que je rencontre au quotidien.
Quelles sont ces embûches ou ces difficultés-là, autant pour vous que peut-être pour les gens que vous côtoyez qui vivent avec une réalité semblable à la vôtre?
Les embûches, elles peuvent être, sont très souvent environnementales, à la fois humaines, avec des gens qui ont de la difficulté à saisir les particularités d'une personne qui voit peu ou pas, mais elles sont très souvent des obstacles physiques. Oui. Alors, on parle souvent qu'une situation de handicap, c'est des barrières dans l'environnement. Bien, pour la personne qui voit peu ou pas, c'est ces barrières-là qui sont à la fois physiques et humaines qui nous rendent la vie souvent plus difficile. Je peux peut-être donner quelques exemples de ces barrières physiques. D'abord, 90%, peut-être même un peu plus, des gens qui ont une déficience visuelle voient un peu. Alors, très souvent, en augmentant la taille des caractères, en augmentant l'éclairage et en permettant de se rapprocher des objets, la personne qui voit un peu va voir beaucoup mieux. Alors, en partant, quelque chose de très, très facile, c'est d'augmenter l'éclairage, la grosseur des caractères et de modifier les contrastes. Et là, on vient d'améliorer la vie de 90% des gens qui vivent avec une basse vision. En pensant à ça, autant que ce soit dans les pharmacies, dans les épiceries, que ce soit l'affichage dans les musées ou les institutions culturelles, que ce soit dans les transports, dès qu'on améliore l'éclairage, qu'on permet à la personne de se rapprocher, de voir un peu mieux, déjà on vient de réduire les situations de handicap environnemental énormément.
Ce sont des outils tout simples.
Tout simple pour cette grande majorité de gens qui voient mal, qui voient moins bien, mais qui pourraient voir beaucoup mieux avec des petits ajustements au niveau de l'éclairage et la grosseur des caractères. Pour ceux qui ont une très basse vision ou une cécité totale, qui est mon cas, j'ai besoin de pouvoir toucher ou de pouvoir entendre l'information qui est transmise. Donc, très souvent, ça peut vouloir dire ajouter du braille dans les ascenseurs ou ajouter un élément sonore dans les appareils mobiles ou les ordinateurs. Donc, il y a toutes sortes de façons de compenser la vision par le sonore et par le toucher. Et c'est plus pour les personnes qui ont une très basse vision ou une cécité totale pour qui ça peut être très, très utile.
Anne, la technologie prend énormément de place de nos jours. Tout le monde a son téléphone portable, son ordinateur. Est-ce que la technologie, elle est accessible pour les personnes qui ont une déficience visuelle?
Moi, je dis souvent que la technologie, c'est le plus merveilleux cadeau pour les personnes qui ont une déficience visuelle, mais c'est à la fois un cauchemar parce que ça n'arrête pas de changer. Et la façon dont les pages web ont été conçues, très souvent, on n'a pas pensé ajouter une description de l'image ou d'ajouter un mot qui veut dire à quoi correspond un lien. Alors, par exemple, des fois, on va avoir une petite image qui correspond, par exemple, à un journal. Et ce lien-là, c'est la presse. Mais si on n'a pas indiqué textuellement la presse, on va entendre graphique ou image 242. Et donc, à ce moment-là, c'est très frustrant parce que ça arrive de plus en plus souvent que les pages n'ont pas été pensées pour être accessibles à une personne qui ne voit pas l'écran.
Et ainsi, la personne qui a une déficience visuelle est brimée de l'information. En fait, elle n'a plus accès à cette information-là, à l'actualité, aux nouvelles.
Effectivement. Puis, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui nous sont maintenant accessibles grâce à l'informatique et à l'Internet, mais que lorsque les pages sont refaites sans penser à nous et qu'il y a de plus en plus d'images dans la société, de plus en plus de vidéos et d'informations visuelles, il y a un problème qui s'ajoute et pour lequel on doit continuer de se battre pour que les concepteurs de pages web pensent à nous. Mm-hmm. Et par pur hasard, j'ai rencontré un concepteur de pages web dans le métro la semaine dernière qui me disait « Google vont préférer mettre en premier résultat de recherche, en première tête de fiche, les pages qui sont accessibles. » Alors, Google fait vraiment un effort pour que les pages soient de plus en plus accessibles sur le web, ce qui permet donc aux concepteurs de dire « Moi, je veux que mon site web soit trouvé en premier. » Et donc, sans penser même aux personnes aveugles ou ceux ayant des déficiences, ils vont le faire parce qu'ils savent que Google va prioriser leur site web plutôt qu'un autre. Alors ça, c'est très bien pour nous. Ça veut dire que les concepteurs de pages web vont de plus en plus penser à l'accessibilité lorsqu'ils font leur site.
Mais est-ce que c'est parce que ce besoin-là a été nommé? Qu'est-ce que l'on fait, Anne, pour que ça change? On parlait tout à l'heure d'éclairage tout simple dans les transports en commun ou dans les différentes institutions, entre autres choses. Comment on fait pour que ces dossiers-là avancent?
C'est un petit peu mon travail à l'université d'être un bon porte-parole, d'aller parler aux informaticiens dans les universités en première année, deuxième année, troisième année, que notre message puisse être diffusé à une plus grande échelle et non pas juste parler entre nous parce que parfois, les gens de la communauté se parlent entre eux et on oublie d'aller voir ceux qui ont un intérêt pour nous aider et qui n'ont pas nécessairement l'information nécessaire. Mmh. Alors, ça prend des gens comme moi et bien d'autres pour davantage faire comprendre que la déficience visuelle, c'est l'affaire de tous et que notre vision, qu'elle soit parfaite ou un petit peu diminuée ou très diminuée, il y a plein de solutions pour améliorer l'accès à l'information.
Et pour aussi détabouiser, je reviens un petit peu à notre début de conversation, Anne, les gens qui ont une déficience visuelle ont envie d'être actifs, j'imagine, dans la société, dans la communauté, d'amener leur apport également. Il faut leur laisser cette place-là.
Je dirais que oui, il y a un grand nombre qui veulent être actifs, mais il y a un moment peut-être où certaines personnes vont baisser les bras parce que les obstacles sont quand même nombreux. L'autre chose, c'est que très souvent, les personnes qui ont une basse vision sont relativement âgées. On voit vraiment un nombre plus important chez les personnes âgées et très âgées. Alors, on voit de plus en plus de gens très âgés qui ont des doubles déficiences auditives et visuelles. On va devoir penser à eux dans les centres d'hébergement. On va devoir améliorer l'éclairage, la grosseur des caractères à la cafétéria et dans les salles de loisirs, etc. Donc, il y a un travail vraiment pour mieux comprendre qui sont ces personnes. Est-ce qu'on les retrouve plus à un jeune âge ou à un âge plus avancé? La réponse est beaucoup plus souvent à un âge avancé. Et beaucoup plus souvent, ils ont une basse vision où l'éclairage, les contrastes et la grosseur des caractères font une énorme différence.
Anne, vous vous promenez avec une canne blanche, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu peur à certains moments de vous blesser, de tomber? Est-ce qu'il y a eu des obstacles physiques dans votre environnement?
J'ai très souvent peur, je dois dire, même si je marche d'un pas très rapide. Je suis quand même très, très, très vigilante. Je dois faire très attention. Les feux sonores qui sont dans la ville, surtout à Montréal, mais dans certaines régions éloignées, nous permettent de traverser la rue en toute sécurité. Ils ne sont pas à tous les coins de rue, comme on voit au Japon. Mais à Montréal, on commence à en avoir de plus en plus. Par contre, il y a des obstacles aussi sur la rue. Il faut faire très attention. Il faut éviter, il faut dégager le plus possible les grandes artères, ajouter des feux sonores, améliorer encore une fois les contrastes des affiches et des informations disponibles sur la rue.
Mm-hmm. Anne, bien sûr, le grand public, quand on croise quelqu'un qui a un handicap, bon, soit qui est non-voyant, malvoyant, dans la rue, dans le métro, bon, la plupart d'entre nous, on a envie d'aider. Moi, parce que je connais bien mon collègue Luc Fortin, que vous connaissez aussi, je sais que souvent, ils aiment, Luc, en tout cas du moins, aime se faire proposer un coude. En fait, comment on aborde quelqu'un qui a une déficience visuelle, on a envie de l'aider, quelle est la meilleure façon de faire?
La réponse de Luc est très bonne parce qu'effectivement, si on demande « Avez-vous besoin d'aide? Comment je peux vous aider? » c'est tout simple. Et très souvent, d'approcher le coude, c'est la meilleure façon de faire pour que la personne puisse prendre le coude et le laisser aller si la personne ne veut plus. Très souvent, on a tendance à prendre le bras de la personne et là, on se sent comme un peu pris. Et très souvent, on prend le bras de la canne qui se retrouve dans les airs tout d'un coup. Alors ça, il faut faire attention de ne pas le faire automatiquement, de demander tout simplement et souvent d'ajouter « comment je peux vous aider?
Mm-hmm. »
Et en demandant le « comment », eh bien, ça va dépendre de la personne, comment elle file, le type de besoin qu'elle pourrait avoir. Des fois, on pense que la personne veut aller à gauche parce qu'on semble penser que c'est ça, mais non, on est à un endroit pour une autre raison. Alors, peut-être simplement comme on fait pour n'importe qui qu'on pense qu'il pourrait avoir besoin d'aide, c'est de demander est-ce que je peux vous aider et comment.
Et certains, et ça encore, ça vient de vous, certains fuient devant la différence aussi, sont très, très mal à l'aise. Vous auriez envie de dire quoi à ces gens-là?
J'aurais surtout envie de leur demander pourquoi. Et puis, comme j'ai déjà été voyante et que lorsque j'ai commencé à me promener avec ma canne, je disais, mais je suis toujours la même. Les gens ont de la difficulté lorsqu'ils ne connaissent pas une situation ou une condition. Mm-hmm. Puis souvent, les gens pensent qu'eux, ils seraient malheureux avec cette condition-là. Peut-être.
Ouais.
Alors souvent, c'est d'oser. Moi, je dis souvent, il faut oser dépasser un petit peu nos craintes. Puis on découvre quelque chose parfois de beaucoup plus beau et agréable qu'on le pensait.
Oui, vous disiez souvent qu'une personne qui a un regard sur une personne qui a un handicap visuel pense d'abord à sa crainte avant d'avoir de l'empathie, souvent.
Très souvent, on dit « Mon Dieu, que je voudrais pas être à sa place. Mon Dieu, que ça doit donc être difficile. » C'est un réflexe tout naturel. Et pourtant, moi, je sais que ma vie est riche et pleine de plaisir et de projets. Alors, je dirais, il faut faire attention de ne pas penser trop rapidement puis d'oser s'informer pour voir qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui peut être agréable pour la personne qui utilise davantage le goût, le toucher, le gustatif, pour que l'information se rende au cerveau. Parce que ce qu'on veut, en fait, dans la vie, je pense, pour la plupart, c'est donner un sens à sa vie en apprenant plein de nouvelles choses. Bien, la personne qui voit peu ou pas, elle apprend, mais elle apprend différemment, puis en utilisant les sens qui fonctionnent davantage, sans que ce soit magique. On a des fois l'impression que c'est magique. Ce n'est pas magique, c'est plus difficile. Mais lorsqu'on réussit, c'est tellement satisfaisant.
Oui. En fait, ce que l'humain souhaite, c'est être bien, au bout du compte.
Oui. L'humain souhaite être bien, l'humain cherche à donner un sens à sa vie, à être apprécié. Moi, je dis que très souvent, on préfère aider que d'être aidé. Ce qui est difficile lorsqu'on voit peu ou pas, c'est qu'on pense toujours qu'on a besoin d'être aidé. On veut aider, nous aussi, mais on ne nous donne pas souvent la chance de le faire.
Mm-hmm.
Alors, on doit, comme groupe, là, je parle aux groupes qui ont une déficience visuelle, on doit prendre notre place et on doit pousser un petit peu plus pour dire « oui, regarde ce que je suis capable de réaliser ». Et c'est souvent impressionnant pour celui qui voit à quel point, oui, c'est possible, en faisant les adaptations dans l'environnement physique et humain.
Et j'imagine aussi, en se laissant le temps de réapprendre cette différence, quand vous avez commencé à perdre la vue, Anne, vous disiez, même se verser un café, ça devenait un défi.
Oui, et ça l'est encore.
Oui.
Ça l'est encore parce que ce fameux café, il va être dans un environnement différent selon l'endroit où je choisis de le verser. Alors, ça se peut que la machine sur laquelle je dois appuyer sur les boutons n'a pas été adaptée, donc je ne peux pas trouver le bon bouton. C'est possible que ce ne soit pas très bien éclairé, l'endroit où je suis en train de verser quelque chose. Alors, oui, c'est un défi, mais le plaisir dans la vie, c'est aussi de relever des défis. Si on repense à nos récits de vie, à tous et chacun, on se souvient des moments qui étaient un petit peu plus difficiles puis qu'on a surmonté puis pour lesquels on est fier. Et ça, je pense qu'il faut que les personnes qui ont une déficience visuelle puissent continuer d'être fières de leur contribution Et parfois, on oublie que c'est ça qui est important pour plusieurs. Et oui, c'est ce qui fait qu'on est bien. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait que je suis bien en ce moment.
Et je pense, Anne, que vous êtes bien aussi à titre de professeur à l'Université de Montréal, à l'école d'optométrie. Vous enseignez au programme de deuxième cycle, le DESS en intervention en déficience visuelle, avec des jeunes adultes qui vont travailler avec des personnes non-voyantes ou, malvoyantes en réadaptation. Et vous aimez bien leur faire vivre cette réalité-là, c'est-à-dire leur bander les yeux, les amener au restaurant. Pourquoi c'est important de leur faire vivre cette expérience?
Je crois qu'un programme comme celui dans lequel j'enseigne, c'est un programme où on doit amener les gens à mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire de voir peu ou de voir très peu ou pas du tout. Et il y a beaucoup de théories, on parle beaucoup des pathologies, on parle beaucoup de toute la perception tactile, c'est fait de quoi, et puis les couches de la peau qui permettent. Bon, alors il y a tout le côté théorique qui est important, mais pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, il n'y a rien comme le vivre. Il n'y a rien comme le vivre, puis souvent on donne des grandes heures de théorie, puis ensuite on dit maintenant, allez-y, ce qu'on a parlé, allez appliquer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de toucher pour reconnaître un objet en ne faisant que le toucher plutôt que de le voir, allez prendre un repas au restaurant pour expérimenter ce que ça veut dire de s'enligner avec la table, avec la main courbée vers l'intérieur. Donc on a beau le dire, s'ils ne le font pas, ça ne restera pas, ça ne sera pas compris, et lorsqu'ils iront aider une personne qui vit la déficience, s'ils l'ont pas expérimenté eux-mêmes, c'est pas pareil. Alors qu'après l'avoir vécu une fois, je pense que c'est ancré pour très longtemps, parce que c'est des expériences
Bien,
profondes,
marquante, ben
très
oui.
marquantes, tout
Qu'est-ce
à
qui
fait.
ressort de ces expériences-là, de par leur bouche? Le respect, l'empathie, la crainte?
Un peu de tout ça, je dirais que souvent, après avoir essayé les lunettes de simulation ou le bandeau, ils réalisent. Ils disent, mon Dieu, on parlait tout à l'heure d'éclairage, mais je réalise à quel point, tout d'un coup, avec cette lunette de basse vision, j'ai besoin de 3 fois plus d'éclairage. Et que oui, si je me rapproche de la lumière, tout d'un coup, je vois mieux. Alors, c'est cette espèce de lien entre la théorie et la pratique qui peut faire en deuxième ou en troisième partie de cours, qui leur permet de vraiment mieux comprendre lorsqu'un. Parce qu'ensuite, ils terminent l'université, puis ils vont aller évaluer les besoins d'une personne. Et donc, ils comprennent mieux comment évaluer et comment répondre à cette nécessité d'adapter l'environnement.
Bien, merci, Anne, de le faire à votre façon, de si belle façon aussi, de former ces jeunes adultes qui prendront soin des gens dans le besoin dans les futures années. Je vais aussi souligner vos deux prix en 2014, prix Inspiration et également prix Mon parcours, ma carrière. Un très, très grand, gros bravo à vous. Vous êtes vraiment très, très inspirante, Anne Jarry. Je rappelle, vous êtes professeure adjointe à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et on glissera sur le site du Canal M tout le lien là, vers le rapport publié par l'INCA au début du mois de mai.
Je vous remercie beaucoup. Merci pour m'avoir invité.
Merci
Ça me
Anne,
fait
bon
très
été à
plaisir.
vous.
Merci à vous aussi.
Au
Au
plaisir de
plaisir.
vous revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.